Chers amis, nous avions vu les dernières fois qu'il y avait en chaque homme une inclination au bien, inclination reconnue par la raison et énoncée sous la forme d'une loi naturelle, c'est-à-dire une loi conforme à la nature humaine. Cette loi intérieure oblige. Elle se présente en effet comme une sorte d'impératif moral dans notre cœur, et elle dit à chacun « évite le mal et fais le bien ». C'est ainsi que spontanément nous portons un jugement moral sur nos actions ou sur les actions des autres. Nous reconnaissons à l'intime de nous-mêmes une approbation ou une désapprobation suivant que les actes sont bons ou mauvais. Et ceci ne doit pas nous étonner puisque, comme nous l'avions vu les dernières fois, étant donné que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien Dieu a inscrit en nous quelque chose de sa sagesse et de sa bonté. Cette loi naturelle qui est en nous est une participation à la loi éternelle de Dieu, c'est-à-dire à sa sagesse qui conduit toute chose vers le bien, vers son accomplissement plénier. Seulement, nous avions vu aussi que cette loi naturelle universelle, dont le précepte fondamental est « fais le bien, évite le mal », et dont les préceptes qui en découlent sont « ne tue pas, ne vole pas, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse », etc., cette loi donc présente dans tous les cœurs et donc dans tous les peuples de la terre, eh bien elle peut être délibérément rejetée, car l'homme a été créé libre. Et force nous est de constater que notre modernité et post-modernité occidentale, ne voulant plus dépendre de qui que ce soit et encore moins de Dieu, a rejeté le fondement de toute morale en rejetant la loi naturelle inscrite en l'homme. Jean-Paul Sartre affirmait que l'existence précède l'essence. Autrement dit, l'homme vient à l'existence, mais c'est lui seul qui décide de ce qu'il veut devenir. C'est lui qui se fait le créateur de lui-même, selon ce qu'il désire. Il n'y a rien qui le précède. Il n'y a pas un sens originel donné dans sa nature qui l'oriente vers tel choix bon plutôt que vers tel autre. Simone de Beauvoir, dans le même ordre d'idées, disait « on ne naît pas femme, on le devient ». Autrement dit, jusque dans la sexualité, qui est pourtant un donné de naissance, eh bien rien ne précède ma décision. C'est moi qui choisis ce que je veux devenir. Je ne me reçois pas, je m'invente. Et aujourd'hui, nous avons les fils et les filles spirituelles de Simone de Beauvoir et de Sartre qui affirment que le genre est fluide, que mon corps ne me dit rien de ce que je suis. Il n'a pas à m'orienter dans la manière dont je me perçois. Donc je peux aujourd'hui être femme ou homme, homosexuel ou hétérosexuel ou transsexuel. Je ne reconnais pas dans ma nature un message éthique, une grammaire si vous voulez, une orientation pour vivre ma vie selon un bien objectif qui à la fois me précède et me finalise et qui seul peut m'ouvrir la voie du bonheur. Ce rejet de la loi naturelle a des conséquences dans tous les domaines, politiques, économiques, éducatifs, familiaux, etc. Car s'il n'y a plus la reconnaissance de la loi naturelle, et donc de la possibilité d'une morale universelle, alors chacun ou chaque groupe d'intérêts va mener ses affaires comme il l'entend, en cherchant non plus ce qui est bien, mais ce qui plaît, ce qui est utile, ce qui flatte les passions. Chacun est ramené à la préférence de son égo, de ses intérêts propres. Benoît XVI n'a cessé de déplorer l'abandon de la loi naturelle, car il y voyait un très grand risque pour l'humanité. En effet, abandonner et même rejeter la loi naturelle, c'est se condamner au relativisme moral, à l'abandon de la sacralité de la vie, de la dignité de toute vie humaine, et à l'idée même d'un bien objectif normatif, un bien qui oblige la conscience. Et il me semble que ce rejet de la loi naturelle n'est pas seulement le fruit dommageable de notre modernité, mais la conséquence d'une attaque en règle contre l'ordre naturel voulu par Dieu. Ce qui se joue dans ce rejet et dans les conséquences qui se déploient dans notre monde actuellement est de l'ordre d'un combat spirituel et d'un combat eschatologique où Satan veut saper l'œuvre bonne de Dieu. Et donc il a tout intérêt à faire disparaître des cœurs et des peuples les préceptes de la loi naturelle. Gardons à l'esprit que la loi naturelle, qui est accessible à toute personne, y compris les non-chrétiens, se décline cependant dans la Bible en préceptes révélés. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, nous avons les 10 commandements révélés à Moïse. Ne tue pas, ne vole pas, ne commets pas d'adultère, ne porte pas de faux témoignages, etc., etc. Jésus, lui, a condensé tout cela en 2 préceptes qui n'en font qu'un. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Autrement dit, le précepte premier de la loi divine concerne donc d'abord l'amour, l'inclination du cœur vers le bien désirable. Eh bien, c'est précisément cela que l'ennemi de Dieu, qui est aussi l'ennemi du genre humain, va discréditer. C'est cette loi naturelle énoncée dans la parole de Dieu qui est attaquée d'une manière très sournoise et très efficace aujourd'hui. Et le livre de l'Apocalypse peut nous donner des clés de compréhension de ce combat spirituel. Je vais m'attarder un peu là-dessus car je trouve que c'est éclairant pour comprendre les temps que nous vivons et surtout les enjeux auxquels nous sommes affrontés. Pour cela, je vais m'appuyer sur la grâce prophétique qui est présente dans l'Église. J'évoquerai pour ce qui est de la grâce prophétique le petit Van, dont le procès de béatification est en cours à Rome, qui a reçu des messages du Christ dans les années 1945-1950. Je m'appuierai encore sur un prêtre italien, Don Gobbi, décédé en 2011, qui avait reçu des locutions intérieures de la Vierge. Je précise que cet homme était un ami de Saint Jean-Paul II, que le livre où il a noté les messages de la Vierge a reçu l'imprimatur, ce qui veut dire que rien de ce qui est noté est contraire à la foi catholique, que des évêques font partie du mouvement sacerdotal marial que la Vierge Marie lui a demandé de créer. Il y a là des signes suffisants de crédibilité, mais évidemment ce n'est pas parole d'évangile. Et l'Église n'a pas encore porté un jugement sur les locutions reçues par ce prêtre. Cependant, rien ne nous empêche de les écouter. Ce que je trouve intéressant dans ces messages, ce n'est pas tant une annonce de ce qui va venir, qu'une interprétation dans la lumière de la sagesse divine de la parole de Dieu au regard de ce qui est, de ce qui se passe actuellement dans notre monde. Et vous verrez d'ailleurs qu'il n'y a pas là de scoop à proprement parler. On y reconnaît notre monde. Vous connaissez donc le livre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, et je voudrais que nous nous attardions sur le chapitre 12, celui du grand combat entre la femme revêtue du soleil et l'énorme dragon rouge qui tente de dévorer l'enfant qu'elle a mis au monde et qui, ne pouvant le faire, s'en va guerroyer contre les enfants de la femme. Nous avons là, d'une manière imagée, le combat entre Satan, le grand dragon, le séducteur du monde entier, comme il est appelé, et la femme, cette femme revêtue de la gloire de Dieu, qui est à la fois la Vierge Marie et l'Église. Autrement dit, Dieu nous a révélé dans ce livre qu'à la fin des temps viendrait une lutte acharnée de Satan contre l'Église et les enfants de la femme, c'est-à-dire les enfants de l'Église, ceux qui appartiennent au Christ, c'est-à-dire nous. Écoutons donc le commentaire donné par la Vierge concernant l'Apocalypse, notamment le chapitre 12. L'énorme dragon rouge est le communisme athée qui a répandu partout l'erreur de la négation et du refus obstiné de Dieu. L'énorme dragon rouge est l'athéisme marxiste qui se présente avec 10 cornes, c'est-à-dire avec la puissance de ses moyens de communication pour amener l'humanité à désobéir aux 10 commandements de Dieu, c'est-à-dire précisément les préceptes de la loi naturelle. Sa couleur est rouge parce qu'il se sert de la guerre et du sang comme instrument de ses nombreuses conquêtes. L'énorme dragon rouge a réussi en ces années, le message date de mai 1989, à conquérir l'humanité par l'erreur de l'athéisme théorique et pratique qui a séduit désormais toutes les nations de la Terre. Il faut quand même se souvenir que toutes les élites de France après la guerre étaient communistes, pour la plupart en tous les cas. Cet énorme dragon rouge a réussi de cette façon à construire une nouvelle civilisation sans Dieu, matérialiste, égoïste, hédoniste, aride et froide, qui porte en elle-même les germes de la corruption et de la mort. Le Seigneur m'a revêtu de sa lumière et l'Esprit Saint de sa divine puissance. Ainsi, j'apparais comme un grand signe dans le ciel, la femme revêtue de soleil, parce que je suis chargé de soustraire l'humanité à la domination de l'énorme dragon rouge et de la ramener tout entière à la parfaite glorification de la très sainte Trinité. Dans cette lutte terrible surgit de la mer au secours du dragon rouge une bête semblable à une panthère, chapitre 13. si le dragon rouge est l'athéisme marxiste, la bête noire est la franc-maçonnerie. Je vous rappelle aussi que le 15 novembre 1945, Jésus donnait une vision de la France au petit Marcel Van, ce jeune rédemptoriste mort martyr au Vietnam. Van a vu un drapeau noir planté sur la France. Puis il a entendu Jésus qui disait « Pauvre France, une fois libérée du communisme, elle aura affaire à une société secrète plus perverse, la franc-maçonnerie. Mon enfant prie pour la France, sinon malheur à elle. » Revenons à l'explication de la Vierge. Le dragon se manifeste avec la vigueur de sa puissance. La bête noire, donc la franc-maçonnerie, au contraire, agit dans l'ombre. Elle se dissimule, elle se cache, de manière à pouvoir entrer partout. Elle opère partout avec astuce et par les moyens de communication sociale, c'est-à-dire la propagande. La franc-maçonnerie agit par tous les moyens pour empêcher que les âmes se sauvent. Elle veut rendre vaine l'œuvre de rédemption accomplie par le Christ. Si le Seigneur a communiqué sa loi par les 10 commandements, la franc-maçonnerie diffuse partout avec la puissance de ses 10 cornes une loi qui est complètement opposée à celle de Dieu. Or, les 10 commandements, nous avions vu qu'ils pouvaient être compris comme l'expression révélée de la loi naturelle. Donc la bête, en promouvant une autre loi, entre frontalement en opposition totale avec la loi naturelle. Voyez le combat spirituel. Alors, qu'est-ce que promulgue cette nouvelle loi énoncée par la franc-maçonnerie et qui entre frontalement en opposition avec la loi naturelle ? À l'encontre du commandement du Seigneur, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Elle construit de fausses idoles, devant lesquelles beaucoup se prosternent aujourd'hui en adoration, que ce soit la raison, le progrès, l'argent, le pouvoir, le plaisir, la science, etc. Au commandement, ne pas prononcer en vain le nom du Seigneur. Elle s'oppose, en blasphémant Dieu et son Christ, de tant de manières sournoises et diaboliques. À l'encontre du commandement, rappelle-toi de sanctifier les fêtes, le Shabbat, mais pour nous le dimanche. Elle transforme le dimanche en week-end, en un jour de sport, de jeu et de divertissement. Au commandement, honore ton père et ta mère. Elle oppose un nouveau modèle de famille fondé sur la vie commune, même entre homosexuels. À l'encontre du commandement ne pas tuer, elle a réussi à faire légitimer partout l'avortement, à faire accepter l'euthanasie, à faire presque disparaître le respect dû à la valeur de la vie humaine. Et je vous rappelle quand même que Pierre Simon, grand maître de la Grande Loge de France, franc-maçon donc, avait écrit un livre qui s'intitulait « De la vie avant toute chose », paru en 1979, où il déployait clairement tout le plan de la franc-maçonnerie pour faire avancer la légalisation de l'avortement, du suicide assisté, de l'euthanasie. Le livre avait été retiré de la vente très vite car ils s'étaient rendu compte qu'il valait mieux ne pas dévoiler clairement leur projet subversif. À l'encontre du commandement « Ne pas commettre des actes impurs », la franc-maçonnerie justifie, exalte et propage toutes les formes d'impureté, jusqu'à justifier des actes contre nature. À l'encontre du commandement ne pas voler, elle travaille à répandre de plus en plus les vols, la violence, les prises d'otages, les enlèvements. Et regardons aujourd'hui le monde de la finance, les prises d'intérêts illégales, la corruption partout. À l'encontre du commandement ne pas proférer de faux témoignages, elle travaille à propager de plus en plus la loi de la tromperie, du mensonge, de la duplicité. À l'encontre du commandement ne pas désirer le bien et la femme d'autrui, elle cherche à corrompre en profondeur la conscience en trompant l'esprit et le cœur de l'homme. Vous avez sans doute entendu parler il y a quelques années de ce site internet Glidden qui fait la promotion de l'adultère. Les âmes sont donc de cette façon poussées sur le chemin pervers et mauvais de la désobéissance à la loi du Seigneur. Elles font mourir en elles les exigences éthiques de la loi naturelle. Elles sont submergées par le péché et sont ainsi empêchées de recevoir le don de la grâce et de la vie de Dieu. Donc ce n'est pas rien. L'enjeu, c'est la possibilité du salut des âmes, rien de moins. Le but de la bête est donc d'amener toute l'humanité sous son joug. Et on voit bien, quand on regarde notre monde, à quel point elle a réussi à imposer ses valeurs, entre guillemets, qui sont à l'opposé de la loi de Dieu. Et on comprend dans un tel contexte que le nombre n'est pas un critère de vérité, parce que désormais la bête a le nombre pour elle. Hitler aussi avait le nombre pour lui, puisqu'il est arrivé démocratiquement au pouvoir. Ceci pour nous mettre en garde face à une tentation, celle de suivre l'opinion publique, le plus grand nombre. Vous savez, il faut vivre avec son temps, puisque tous se mettent à penser ainsi, c'est qu'il faut penser ainsi, soyons modernes, etc. Et on devient les moutons de Panurge, incapables d'avoir une pensée autre, une pensée conforme au bien véritable de la nature humaine. On devient honteux de garder la pensée du Christ. Mais la vérité est dans la vérité, pas dans le nombre. Il y a un apophtegme d'Abba Antoine que j'aime beaucoup et que je trouve très actuel. Abba Antoine, donc, c'est un père du désert au IVe siècle, qui dit « Un temps viendra où les hommes deviendront fous, et lorsqu'ils rencontreront quelqu'un qui n'est pas fou, ils se tourneront vers lui en disant « Tu déraisonnes !» et cela parce qu'il ne leur ressemble pas. » Eh bien oui, à l'heure où le bon sens se perd, où la loi naturelle est rejetée, que peut-il rester ? Eh bien, la folie, l'absurdité généralisée, le bon sens renversé et en conséquence le mal qui prolifère. Mais continuons la suite du chapitre 13 dans l'Apocalypse et l'explication qu'en donne la Vierge. En vue de détruire l'Église, vient de la terre au secours de la bête noire montée de la mer, une bête qui a deux cornes, semblable à celle d'un agneau. La Vierge explique alors que l'agneau renvoie au sacrifice, mais aussi au sacerdoce. Pourquoi ? Parce que dans l'Ancien Testament, le grand prêtre portait un couvre-chef à deux cornes. Dans l'Église, les évêques portent une mitre à deux cornes pour indiquer la plénitude de leur sacerdoce. La bête noire, semblable à une panthère, indique la franc-maçonnerie. La bête noire à deux cornes, semblable à un agneau, indique la franc-maçonnerie infiltrée au sein de l'Église, c'est-à-dire la franc-maçonnerie ecclésiastique qui s'est diffusée surtout parmi les membres de la hiérarchie. Cette infiltration maçonnique à l'intérieur de l'Église vous a déjà été prédite par moi, dit la Vierge, à Fatima, lorsque je vous ai annoncé que Satan s'introduirait jusqu'au sommet de l'Église. Si la tâche de la franc-maçonnerie est de conduire les âmes à la perdition, en les conduisant au culte de fausses divinités. Le but de la franc-maçonnerie ecclésiastique est par contre de détruire le Christ et son Église, en construisant une nouvelle idole, c'est-à-dire un faux Christ et une fausse Église. Ensuite, la Vierge détaille la manière dont cette franc-maçonnerie s'y prend. Je résume pour ne pas rallonger. La franc-maçonnerie ecclésiastique amène à justifier le péché, l'impureté, en changeant les normes morales, et donc en marginalisant ou même en rejetant finalement la loi naturelle, de telle sorte que le repentir ne puisse plus naître, et donc la confession. Cette franc-maçonnerie promeut des interprétations naturelles et rationalistes de la parole de Dieu, de sorte que celle-ci se trouve vidée de son contenu surnaturel. Les miracles du Christ sont niés, ainsi que l'historicité de la résurrection, de telle sorte qu'on aille jusqu'à remettre en cause la divinité du Christ en faisant un homme comme nous. Elle ramène l'Eucharistie à la scène, n'y voyant qu'un repas fraternel, sans la dimension sacrificielle du Christ qui donne sa vie. Bref, outre beaucoup d'autres aspects, elle conduit à la diffusion d'erreurs qui entraînent la perte de la vraie foi, ce qu'on appelle l'apostasie. Déjà à Fatima, la Vierge avait annoncé « Des temps viendront où beaucoup perdront la vraie foi. » Pourquoi je vous parle de cela ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes affrontés à cela, à une apostasie quasi généralisée. Jean-Paul II en parlait déjà d'une manière très claire dans son exhortation apostolique adressée à l'Europe. Et cette apostasie, non seulement nous la trouvons chez les baptisés, mais aussi chez certains pasteurs de l'Église qui sont en contradiction flagrante avec la parole de Dieu et avec le magistère. Nous voyons notamment cela avec la démarche synodale en Allemagne, où des évêques demandent à ce que la morale sexuelle soit changée, à ce que les unions homosexuelles ne soient plus vues comme un péché, mais soient reconnues comme une forme d'amour qu'on pourrait de surcroît bénir. Alors nous n'avons pas à être leurs juges, seulement à prier pour eux, à prier pour l'Église. Cependant, il ne faut pas se laisser nous-mêmes aller à la dérive et se laisser balloter à tout vent de doctrine, comme le disait saint Paul. S'il y a des gens dans l'Église qui ont un discours à l'opposé de la parole de Dieu, un discours qui contredit le catéchisme de l'Église catholique, le magistère et la tradition bimillénaire de l'Église, nous n'avons pas à les suivre, ni à nous laisser déstabiliser par eux. J'aurais envie de dire avec saint Jean, ces gens-là, ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais il fallait qu'il fût manifesté que tous n'étaient pas des nôtres. En fait, il s'agit de ne pas être naïf. L'Église est sainte, mais il peut y avoir des courants en elle qui dévient. Dans les premiers siècles, nous avons eu les hérésies ariennes, nestoriennes, où beaucoup de pasteurs, des prêtres et même des évêques étaient tombés dans l'hérésie, voire même une majorité d'entre eux dans certains lieux. Mais leur grand nombre n'a pas prévalu, grâce à ceux qui sont restés fidèles. Nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles hérésies qui pourraient déchirer l'Église, mais soyons sûrs que la vérité prévaudra, même s'il faut passer par la persécution, comme les évêques de l'Antiquité qui ont voulu rester fidèles à la vérité et qui se sont retrouvés en exil ou mis à mort. Paul VI disait en 1977 « Il y a un grand trouble en ce moment dans le monde et dans l'Église. Et ce qui est en question est la foi. Ce qui me frappe quand je considère le monde catholique, c'est que, à l'intérieur du catholicisme, semble parfois dominer une pensée de type non-catholique. Et il peut advenir que cette pensée non-catholique, à l'intérieur du catholicisme, devienne demain la plus forte. Mais cela ne représentera jamais la pensée de l'Église. Il faut que subsiste un petit troupeau, aussi petit soit-il. Je vous disais tout à l'heure que le nombre n'est pas un critère de vérité. Il se pourrait même que seulement un petit nombre garde la loi naturelle et reste fidèle au dépôt de la foi. Benoît XVI, quand il était encore le cardinal Ratzinger, avait d'ailleurs fait une sorte de prophétie en 1969 lors de conférences. Il disait « L'avenir de l'Église peut résider et résidera dans ceux dont les racines sont profondes et qui vivent dans la pure plénitude de leur foi. L'avenir de l'Église ne résidera pas chez ceux qui ne font que s'adapter au moment présent. Pour le dire plus positivement, l'avenir de l'Église, une fois de plus, comme toujours, sera façonné par les saints, c'est-à-dire par des hommes dont l'esprit est plus profond que les slogans du jour. Nous n'avons pas besoin d'une Église qui célèbre le culte de l'action dans les prières politiques. Elle est entièrement superflue. Et donc elle va se détruire. Ce qui restera sera l'Église de Jésus-Christ, l'Église qui croit au Dieu qui s'est fait homme et qui nous promet la vie après la mort. » Et il poursuit prophétiquement, « Dans la crise actuelle, une Église qui a beaucoup perdu émergera. Elle deviendra petite et devra recommencer plus ou moins depuis le début. Au fur et à mesure que ses fidèles diminueront, elle perdra aussi la plupart de ses privilèges sociaux. Mais malgré tous ces changements que l'on peut supposer, l'Église retrouvera, avec toute son énergie, ce qui lui est essentiel, ce qui a toujours été son centre, la foi dans le Dieu trinitaire, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, dans l'assistance de l'Esprit qui durera jusqu'à la fin. Elle repartira de petits groupes, de mouvements et d'une minorité qui remettra la foi et la prière au centre de l'expérience et qui revivra les sacrements comme un service divin et non comme un problème de structure liturgique. Ce sera une Église plus spirituelle, qui ne s'arrogera pas un mandat politique en flirtant tantôt avec la gauche, tantôt avec la droite. Elle sera pauvre et deviendra l'Église des pauvres. Ce que le professeur Ratzinger ébauchait était un long processus, mais lorsque tous les efforts seront terminés, dit-il, une grande puissance émergera d'une Église plus spirituelle et simplifiée. À ce moment-là, dit-il, les hommes qui vivront dans un monde totalement programmé connaîtront une solitude indescriptible. Tous ceux qui auront complètement perdu le sens de Dieu ressentiront toute l'horreur de leur pauvreté, et ils découvriront alors la petite communauté des croyants comme quelque chose de totalement nouveau. Ils la découvriront comme une espérance pour eux-mêmes, la réponse qu'ils avaient toujours cherchée en secret. Je trouve ce texte du cardinal Ratzinger très beau. Il était déjà bien conscient de la crise qui ne faisait que commencer, et lucide sur l'avenir de l'Église. Il voyait bien que l'Église aussi passerait par une purification, qu'elle devrait expurger d'elle-même l'esprit du monde, les tentations politiques, idéologiques, qu'elle devrait revenir à la prière, à l'intériorité, à la sainteté, finalement à Jésus-Christ et à sa loi d'amour, et donc à la vérité tout entière. Or cela ne passera pas par le plus grand nombre, y compris dans l'Église. Le Seigneur nous parle souvent par la bouche des prophètes dans l'Ancien Testament du petit reste à partir duquel tout refleurira. Eh bien, acceptons d'être de ce petit troupeau qui veut rester fidèle, de ces gens à qui la multitude dira « Tu n'es pas raisonnable » et qui devront de plus en plus s'appuyer sur leur conscience pour résister. Puissions-nous toujours faire partie de ceux qui suivent l'agneau partout où il va, et qui gardent le témoignage de Jésus et les commandements de Dieu, ceux qui gardent et honorent la loi naturelle dans leur cœur, ceux qui continuent de croire envers et contre tout que la vérité existe, le Christ n'a-t-il pas dit « Je suis la vérité » et que l'homme est capable de la connaître par l'exercice de sa raison et de rechercher le bien. Bien sûr, la vérité n'est pas à brandir comme un flambeau d'inquisition, elle est à chercher et à recevoir humblement. Comme le disait Benoît XVI, il faut être modeste par rapport à la vérité. Nous ne possédons jamais la vérité, dans le meilleur des cas, c'est elle qui nous possède, disait-il. N'empêche qu'elle existe, et que la grandeur de l'homme réside dans le fait de la chercher, afin de vivre dans la vérité, comme nous y invite saint Jean. Et vivre dans la vérité, c'est rejeter le mal et faire le bien, selon le précepte premier de la loi naturelle. C'est finalement faire nôtre la loi de l'amour en aimant Dieu et notre prochain. Nous avons vu longuement de qu'était la loi naturelle, cette loi inscrite dans le cœur de tous les hommes et qui intime à chacun « fait le bien et évite le mal ». Je voudrais donc maintenant que nous nous intéressions à la conscience morale, vaste sujet et tellement toujours actuel. Car nous avons toujours à agir selon notre conscience, c'est une exigence de la liberté. La revendication de pouvoir agir non pas selon la pensée des autres, mais selon notre conscience, c'est-à-dire selon des valeurs que nous estimons plus hautes que les injonctions, les lois, les pressions qui pourraient nous venir d'un État, d'un supérieur, d'une propagande idéologique. En demandant à pouvoir toujours agir selon notre conscience, sans être forcé à faire quelque chose que nous réprouvons moralement, nous affirmons de fait qu'il y a une instance suprême que nous devons écouter et qui nous jugera, Et cette instance supérieure, c'est précisément notre conscience. Et devant notre conscience, nous voulons ne pas avoir à rougir de nos choix. Nous voulons rester debout, droit dans nos bottes. Nous sentons bien qu'il en va de notre dignité humaine. Alors maintenant, creusons un peu cette question de la conscience morale. D'abord, d'où vient cette idée de la conscience morale ? Eh bien, on ne la trouve pas telle quelle dans l'Ancien Testament, parce qu'elle n'appartient pas à la culture hébraïque. C'est une notion qui appartient à la culture grecque et romaine. Et cependant, si le concept de conscience ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, sa réalité y est présente, mais elle est évoquée sous le vocable du cœur, ce lieu de l'intériorité et de la volonté. Dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 24, après que David eut recensé le peuple contre l'interdiction de Dieu, il est écrit « Mais après cela, le cœur de David lui battit d'avoir recensé le peuple, et il dit au Seigneur, c'est un grand péché que j'ai commis. » De même, au chapitre 24 du premier livre de Samuel, nous voyons David pourchassé par Saoul. Ce dernier entre dans une grotte pour se soulager et David furtivement s'approche et coupe le pan du manteau de Saoul. Après quoi, lit-on, le cœur lui battit d'avoir coupé le pan du manteau de Saoul. David dit alors à ses hommes, « Que le Seigneur m'ait en abomination si je fais cela à mon Seigneur, loin du Seigneur, en portant la main sur lui, car il est loin du Seigneur. » Loin au sens de celui qui a reçu l'onction. Là, on perçoit bien que c'est la conscience qui agit. David reconnaît dans son cœur le mal qu'il a fait, dans le cas du recensement, ou qu'il risquait de faire en portant la main sur Saoul. Dans le Nouveau Testament, nous avons un passage extrêmement clair et très beau sur la conscience morale. Et cela ne vous étonnera pas qu'on trouve ce développement dans la bouche de Paul, hébreu, fils d'hébreu et pharisien, certes, mais aussi nourri de toute la culture hellénique de la région de Tarse d'où il venait. C'est dans sa lettre aux Romains au chapitre 2 que Paul développe une solide argumentation où il montre que si les Juifs ont reçu la loi de Dieu qui leur permet d'agir bien, les païens aussi ont reçu une loi. Et cette loi, c'est la loi de leur conscience, par laquelle ils seront aussi jugés, tout comme les Juifs seront jugés par la loi mosaïque. Paul met en garde les Juifs qui pourraient se croire meilleurs du fait qu'ils ont la connaissance de la loi de Dieu, en leur disant « Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Et il fait remarquer que cette mise en pratique n'est pas le monopole des Juifs, et donc que même des païens peuvent être justifiés. Écoutons l'argumentation de Paul. « En effet, quand des païens qui n'ont pas la loi accomplissent naturellement les prescriptions de la loi, c'est-à-dire ne pas tuer, ne pas voler, ne pas porter de faux témoignages, etc. Eh bien, ces hommes, sans posséder la loi, se tiennent à eux-mêmes lieu de loi. Ils montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur, à preuve le témoignage de leur conscience, ainsi que les jugements intérieurs de blâme ou d'éloge qu'ils portent les uns aux autres. Et oui, ils sont tout à fait capables de sentir intérieurement et de juger ceci est mal, ceci est bien. Et cela doit nous rappeler quelque chose, n'est-ce pas? Tout ce que je vous ai déjà dit sur la loi naturelle les dernières fois. Tout homme, du fait qu'il a été créé par Dieu et à son image, porte en lui cette loi morale, originelle, qui l'oriente naturellement vers le bien. Et donc, Paul apostrophe le Juif qui se targue d'être un observateur de la loi en étant circoncis. Il lui dit « La circoncision, en effet, te sert si tu pratiques la loi. Mais si tu transgresses la loi, avec ta circoncision, tu n'es plus qu'un incirconcis, c'est-à-dire tu redeviens un païen. Si donc l'incirconcis, car le païen, garde les prescriptions de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas réputée circoncision? Eh bien oui, il deviendra spirituellement un juif. » Et celui qui est physiquement incirconcis, le païen, accomplit la loi, te jugera, toi qui avec la lettre et avec la circoncision, est transgresseur de la loi. Car le juif n'est pas celui qu'il est au dehors, et la circoncision n'est pas au dehors, dans la chair. Le vrai juif l'est au-dedans et la circoncision dans le cœur, selon l'esprit et non pas selon la lettre. Voilà celui qui tient sa louange non des hommes, mais de Dieu. Autrement dit, c'est aussi une mise en garde contre nous, les chrétiens. Ce n'est pas la connaissance des évangiles qui nous sauve, c'est la mise en pratique du bien. Et si un païen vit l'évangile, et notamment l'amour du prochain, il pourra être devant Dieu notre juge si nous ne mettons pas nous-mêmes en pratique les commandements de Dieu. Dieu regarde au cœur et non à l'extérieur. Et donc Dieu seul sait qui se trouve dans l'Église, le corps mystique du Christ, ou qui se trouve en dehors. C'est d'ailleurs ce que disait saint Augustin. Il y en a qui se croient dedans et qui sont dehors, il y en a qui se croient dehors et qui sont dedans. Alors, revenons à la conscience morale. Qu'est-ce que la conscience morale? Le Concile Vatican II nous dit ceci. Le lien qui existe entre la liberté de l'homme et la loi de Dieu se noue dans le cœur de la personne, c'est-à-dire dans sa conscience morale. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, résonne au moment opportun dans l'intimité de son cœur. Fais ceci, évite cela. Car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. Sa dignité est de lui obéir et c'est elle qui le jugera. Nous retrouvons cette citation dans Gaudium et Spes numéro 16. On peut dire que dans la conscience se fait entendre la voix de Dieu, c'est-à-dire la loi éternelle reçue à travers la loi naturelle inscrite en notre cœur. Je vous avais dit les dernières fois que la question morale par excellence, c'est « que dois-je faire ?» Autrement dit, selon quels critères vais-je conduire ma vie ? Le problème de la question morale pour l'homme vient de ce qu'il est libre. Il n'y a pas de problème de conscience pour les animaux, ils ne sont pas libres. Dieu a créé l'homme, lui, libre, à son image et à sa ressemblance, donc il peut choisir entre des options différentes. Cependant, notre liberté n'est pas un absolu. Elle n'est pas la finalité de notre vie. Elle n'a pas à se transformer en un caprice pour faire tout et n'importe quoi. Je veux être libre pour être libre et faire ce que je veux. Non, car alors elle ne serait plus au service de notre accomplissement, de ce pour quoi nous sommes fondamentalement faits et qui nous élève, à savoir la recherche du bien, du beau, du vrai et ultimement de Dieu. Notre liberté doit toujours être ordonnée à la vérité et au bien. Ce n'est pas nous qui construisons la vérité. Elle nous précède. Ce n'est pas nous non plus qui établissons le bien et le mal. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, dit Dieu à l'homme, en Genèse 2:17. Autrement dit, selon la parole même de Jean-Paul II dans Veritatis Splendor, le pouvoir de décider du bien et du mal n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu. Assurément, l'homme est libre du fait qu'il peut comprendre et recevoir les commandements de Dieu, et il jouit d'une liberté considérable, puisqu'il peut manger de tous les arbres du jardin. Mais cette liberté n'est pas illimitée. Elle doit s'arrêter devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car cette liberté est appelée à accepter la loi morale que Dieu donne à l'homme. En réalité, c'est dans cette acceptation que la liberté humaine trouve sa réalisation plénière et véritable. Dieu qui seul est bon, connaît parfaitement ce qui est bon pour l'homme, en vertu de son amour même. Il le lui propose dans les commandements. Ceci est extrait de « La splendeur de la vérité », l'encyclique de Jean-Paul II au numéro 35. Donc la rébellion contre les commandements de Dieu vient d'une méconnaissance de son amour et d'un manque de confiance. Ça, c'est la blessure du péché originel en nous. Mais si nous savons qu'il nous aime, alors nous comprenons que ses commandements sont des voies d'amour qu'il nous propose, un chemin pour grandir en humanité et plonger dans son cœur. Et alors librement nous y adhérons de tout notre cœur. Voyez, il ne faut pas oublier cette dépendance de la raison humaine par rapport à la sagesse divine. Contrairement à ce qui se fait aujourd'hui où la raison se prétend autonome et créatrice des valeurs sans autre référence qu'elle-même. Derrière cela, il y a l'orgueil de Lucifer, non serviam, je ne servirai pas, je veux être à moi-même ma propre source. Mais dans ce cas, on perd le lien avec la sagesse éternelle de Dieu. On est comme des enfants capricieux qui mettent le père au placard et édictent eux-mêmes leurs lois, selon leurs désirs propres, sans avoir part à la sagesse du père. Et c'est ainsi, comme le dit Isaïe, que le bien est appelé un mal et le mal un bien, que tuer un innocent dans le ventre de sa mère est devenu un droit, que c'est un bien de transformer un embryon en matériau de laboratoire pour récupérer des cellules souches, et que les conduites sexuelles les plus perverses sont encensées. Alors revenons à la question, que dois-je faire? Selon quels critères agir? Nous avons vu les dernières fois que nous possédons une boussole intérieure qui nous oriente vers le bien, à savoir la loi naturelle qui est une participation à la lumière de Dieu, à sa loi éternelle, à sa sagesse. Cependant, une chose est de connaître les grands principes. Cela, c'est la loi naturelle qui nous dit « tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu respecteras autrui, etc. » Mais une autre est de les appliquer ici et maintenant dans telles circonstances particulières. Et ça, c'est le rôle de la conscience. Par exemple, je sais par la loi naturelle, par la parole de Dieu, que la vie est un bien et que toute personne doit être en conséquence respectée dans son être. Mais là, je suis enceinte, je vais faire des examens, échographie, amniosynthèse, etc. Et on me dit « Madame, votre enfant est gravement handicapé, il ne survivra pas longtemps à la naissance. » Ou bien il aura une vie difficile, il sera polyhandicapé. Il vaudrait mieux que vous avortiez. Qu'est-ce que je fais? Là, c'est à moi de poser un choix éthique. C'est ma responsabilité. Ou bien vous travaillez dans une entreprise, un contrat très intéressant se présente, mais pour l'avoir, il va falloir mentir sur le produit, biaiser, tromper l'acheteur potentiel. Et c'est vous qui êtes envoyé au front pour avoir le contrat. Qu'est-ce que vous faites? Ou bien vous êtes chrétien, vous voudriez aller à la messe pour le jour de Noël, mais vous êtes en famille, la famille est athée, vous savez que vous allez jeter un froid si vous dites que vous vous absentez pour aller à la messe, qu'on va se moquer de vous, faire pression. Que faites-vous? Voyez, ce n'est pas forcément des grands choix qui vont bouleverser votre vie. C'est dans le quotidien que la question se pose. Que dois-je faire? Comment vais-je incarner la loi naturelle, les valeurs qui m'habitent, dans l'aujourd'hui de mon action, dans le choix que j'ai à poser ici et maintenant? Eh bien, c'est au niveau de la conscience que tout va se jouer, parce que personne ne peut et ne doit prendre la décision à ma place. C'est en conscience que je dois agir. Et la conscience, c'est justement ce sanctuaire de l'homme, le lieu où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre, nous dit Gaudium et Spes au numéro 16. Quand on dit que sa voix se fait entendre, ce n'est évidemment pas comme si on avait un ange qui venait qui allait nous dire « fais cela ». Non, être à l'écoute de sa conscience, c'est être attentif à quelque chose qui me précède et qui est l'écho de la loi divine en mon cœur qui passe par la perception de la loi naturelle. C'est être mis devant un jugement, le jugement de ma conscience qui me fait intérieurement comprendre si ce que je fais est bien ou mal. Et cela, je peux le faire que grâce à cette lumière innée, cette lumière du bien qui appartient à la nature humaine, qui éclaire mon intelligence, mon cœur, et qui est une participation à la lumière divine. S'il n'y avait pas cette lumière innée, je serais incapable de poser un jugement de valeur sur quoi que ce soit. En fait, il y a deux moments de la conscience, et les deux sont nécessaires pour poser un acte moral. Le premier moment, c'est ce que saint Thomas d'Aquin appelle la syndérèse, mais le cardinal Ratzinger préfère appeler ce moment anamnèse. En fait, c'est la disposition naturelle vers le bien qui appartient à la nature humaine et qui, comme telle, est en chaque homme. C'est cette intuition présente en tout homme du premier principe de la loi morale, perçue en amont de toute réflexion et qui s'exprime dans ce principe universel « faire le bien, éviter le mal ». C'est pourquoi le cardinal Ratzinger peut parler d'anamnèse, c'est-à-dire d'une mémoire vitale innée, gardienne de l'étincelle de l'amour divin infusé en nous et qui nous rend capable de percevoir la connaissance fondamentale du bien qui a été imprimée en nous, pour reprendre les paroles de saint Augustin. L'anamnèse, en tant que première opération de la conscience, opère donc comme une mémoire originelle du bien et du vrai. Un sens intérieur, une aptitude à la reconnaissance qui permet à l'homme intérieur ainsi interpellé d'en reconnaître l'écho en lui. C'est ce vers quoi mon être est ordonné et tend, dit le cardinal Ratzinger. En fait, c'est une mémoire agissante qui rend le bien présent et actuel en chacun. Le deuxième moment de la conscience morale, c'est la conscience proprement dite. C'est le temps du jugement de la raison par lequel la personne humaine reconnaît la qualité morale, c'est-à-dire le bien, d'un acte concret qu'elle va poser ou est en train d'exécuter ou qu'elle a accompli, nous dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1778. C'est un jugement d'ordre pratique, c'est-à-dire qui s'applique à une opération précise de la volonté dans un contexte déterminé. C'est dans ce moment-là qu'on va incarner ce qu'on a reconnu comme bon et vrai, c'est-à-dire la connaissance délivrée par l'anamnèse, dans la situation particulière où l'on se trouve. Voyez, c'est le temps du jugement de la conscience. Je juge que telle action est bonne à faire maintenant. Ce double mouvement spirituel est nécessaire pour prendre du recul vis-à-vis de soi-même dans le jugement. Robert Spiemann disait « Le premier mouvement conduit l'homme au-delà de lui-même et le conduit à s'interroger sur ce qui est bon et juste en soi, c'est-à-dire dans l'absolu. Pour être certain que ses réponses ne sont pas illusoires, il doit vivre dans une relation d'échange avec d'autres hommes à propos du bien et du juste. Il n'y a pas de conscience sans disposition à former et informer sa conscience. » Mais la conscience comprend aussi le second mouvement qui ramène à nouveau l'individu entièrement à soi. Si l'individu lui-même est potentiellement universel, c'est-à-dire une totalité de sens, alors il ne peut rejeter la responsabilité de son agir sur d'autres personnes, pas plus que sur les mœurs de son époque. Vous savez, tout le monde fait cela, alors pourquoi je ferais autrement ? Il peut obéir à une autorité, certes, et cela aussi peut être juste et raisonnable. Mais c'est lui qui, en dernier ressort, doit répondre de cette obéissance. Ça, c'est important, voyez. Je suis ultimement responsable de mes actes. Je ne peux pas m'abriter derrière le fait que j'ai obéi. Une infirmière ne peut pas dire « je n'ai fait qu'obéir au médecin qui m'a dit de faire une piqûre létale à tel malade ». Ça, c'est pas possible. Elle est responsable. C'est elle qui a piqué. Ça, j'y reviendrai dans les semaines prochaines. Alors pourquoi faut-il toujours suivre sa conscience ? Cette obligation de suivre sa conscience est rappelée dans tous les textes magistériels. Dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1706, dans la déclaration du Concile Vatican II sur la liberté religieuse au numéro 3 aussi, et dans d'autres. En fait, il en va de notre dignité humaine. Car un homme se construit, s'accomplit lorsqu'il s'engage dans les actes qu'il pose. Et la qualité morale de son action dépend toujours de sa confirmation par la conscience. Voyez la qualité suréminente de la conscience. C'est ce qui faisait que le cardinal Newman appelait la conscience le vicaire originel du Christ. Et il disait que s'il devait lever un toast, il le lèverait d'abord à la conscience et ensuite au pape. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut obéir à sa conscience en désobéissant au pape, comme s'il y avait une opposition entre les deux. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'opposition entre les deux, puisque la conscience est la voix de Dieu dans notre cœur. Or, le pape est normalement conduit par l'Esprit-Saint. Il est le gardien du dépôt de la foi, garant de l'obéissance de l'Église à la parole de Dieu. On parle à juste titre du dogme de l'infaillibilité du pape, mais parfois cela est mal compris. L'infaillibilité du pape, ça ne veut pas dire que le pape a raison en tout ce qu'il dit. L'infaillibilité du pape ne recouvre pas toutes ses paroles ni toutes ses décisions, mais seulement celles qui sont ex cathedra, c'est-à-dire quand il se prononce comme successeur de l'apôtre Pierre sur les vérités à croire et les commandements à observer, la foi et les mœurs, en continuité de la parole de Dieu et de la tradition de l'Église. Mais comme personne privée, à titre personnel, un pape peut se tromper. Donc nous n'avons pas à obéir au pape parce que le pape a dit ceci ou cela. Voyez, il faut éviter une papolatrie qui ne serait pas juste. En dernier ressort, ce qui fait que je vais faire telle ou telle action, ce n'est pas parce qu'un prêtre ou le pape me l'aura dit, mais parce que, en conscience, j'aurais reconnu que ce qu'il me disait était bien conforme à la vérité et à ce qu'il est bon de faire. j'aurai reconnu dans la parole du peuple la voix de Dieu qui est dans mon cœur, et en conscience j'y adhérerai, et c'est ce qui fera la valeur de mon action. L'homme doit tenir le jugement de sa conscience pour vérité dérivée de Dieu à son endroit. Et donc s'il n'obéit pas au jugement de sa conscience, c'est comme s'il méprisait Dieu. Et donc il commettrait une faute. Saint Thomas d'Aquin est clair là-dessus. C'est un péché de ne pas suivre sa conscience, même si cette conscience se trompe, que son jugement est erroné. Saint Thomas va même jusqu'à dire que si quelqu'un en conscience pense que le christianisme est une erreur et un mal, ou que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il doit suivre sa conscience. Et s'il ne le fait pas, il est en faute. Mais attention, car l'acte posé en suivant ma conscience n'est pas bon du seul fait que j'ai suivi ma conscience. Il peut être mauvais, si la conscience n'a pas été assez éclairée et qu'elle s'est trompée. D'où l'importance aussi de ne pas confondre sa conscience avec ses caprices, sa subjectivité, ses passions ou ses idéologies. D'où l'importance aussi, en conséquence, de l'obligation qui nous est faite de former notre conscience pour qu'elle soit la plus éclairée possible et qu'elle ne se trompe pas, car les conséquences peuvent être graves. Et Dieu pourra me demander des comptes en me disant « Mais qu'as-tu fait pour former ta conscience ? Est-ce que tu as demandé conseil à des sages ? Est-ce que tu as pris conseil de mon Esprit Saint dans la prière ? Est-ce que tu as cherché la vérité dans ma parole et dans le magistère que je t'ai donné pour cela par le biais de l'Église ? Il faut bien comprendre que quand l'Église se prononce sur des questions morales, ce n'est pas pour prendre la place de la conscience humaine, mais c'est pour la servir, car elle ne fournit pas à la conscience des vérités qui lui seraient étrangères. Mais elle lui montre par le magistère les vérités qu'elle devrait déjà posséder en elle, par la loi morale naturelle, par l'illumination de l'Esprit-Saint, par la lumière de la foi qui éclaire sa conscience. L'Église est la gardienne de cette mémoire du bien et du vrai qui habite l'humanité et qui s'exprime à travers la loi naturelle, le décalogue, la loi nouvelle de l'amour et de la grâce dévoilée par le Christ et communiquée aux hommes par l'Esprit. Pour avoir une bonne conscience donc, l'homme a le devoir de chercher la vérité pour pouvoir juger selon la vérité. Comme le dit saint Paul, la conscience doit être éclairée par l'Esprit Saint. En Romains 9:1, elle doit être pure, comme il est dit dans la deuxième lettre à Timothée au chapitre 1er. Elle ne doit pas falsifier avec astuce la parole de Dieu, mais manifester clairement la vérité, comme il est encore dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 4. D'autre part, le même apôtre donne aux chrétiens ce conseil : ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Romains 12:2. Ainsi, si nous sommes responsables devant notre conscience, puisqu'elle nous juge, nous sommes aussi responsables de notre conscience, responsables de ce qu'elle est, de sa clarté de jugement, par la formation qu'on lui a donnée, pour ne pas nous laisser conduire à tout vent de doctrine, comme le dit encore saint Paul. Et si la conscience est notre juge sur cette terre, elle n'est pas le juge ultime, car elle sera à son tour jugée par Dieu. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un risque très grand d'une conscience qui soit endormie et obscurcie chez beaucoup de nos concitoyens.